Aujourd'hui, cette séance, elle va être principalement consacrée aux effets de taille finie et à essayer de les comprendre à travers le groupe de renormalisation, ce que je vais faire un peu plus tard. Mais d'abord, je vais essayer de vous donner un peu une idée des questions qu'on se pose quand on étudie un système fini et quelles sont éventuellement les difficultés et qu'est-ce qu'on peut en extraire. Alors, donc, c'est les effets de taille finie. Et en anglais, ça va être FSS, Finite Size Scaling. Et je vais essayer de montrer le lien avec le groupe de renormalisation. Alors, la première chose, enfin, il y a trois aspects aux effets de taille finie. Le premier, qui est assez paradoxal et étonnant, c'est que, en fait, les systèmes finis n'ont pas de transition de phase. Pour un système fini, enfin, peut-être que si on bricole des modèles assez compliqués ou très particuliers, il y aura des transitions de phase. Mais si vous prenez un modèle de fluide, un modèle de magnétisme, en général, il n'y a pas de transition de phase pour les systèmes finis. Et ça, ça paraît assez paradoxal, puisque si on prend de l'eau qu'on la met au givreur, ben, on va voir une transition de phase, ça va devenir de la glace. Donc ça paraît assez paradoxal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le système très grand ressemble au système infini, mais malgré tout n'a pas de transition de phase. Et ça, ça a été une question, finalement, qui a pris un certain temps à être comprise. Et j'avais lu, il y a un certain temps, et je n'ai pas retrouvé la référence précise, qu'il y avait eu une conférence dans les années 30 avec des gens célèbres, et la discussion était de savoir justement si un système fini pouvait avoir des transitions de phase ou pas, et ils avaient mis ça au vote, et le vote avait été à peu près partagé. Donc ça montre que ce n'était pas si évident que ça. Et une des raisons, c'est que en fait, les approximations les plus simples que l'on peut faire, comme le champ moyen, donnent une transition de phase pour un système fini. Donc hein, le champ moyen donne une transition de phase. Alors, si vous voulez vous en convaincre, vous prenez un modèle le plus simple possible avec deux spins, un modèle d'Ising avec deux spins, S1 égale plus ou moins 1, S2 égale plus ou moins 1, et vous essayez de résoudre ce modèle avec une énergie de couplage qui est juste moins J, S1, S2. Alors bon, il y a quatre états dans le système, donc sommer, calculer la valeur moyenne de S1, par exemple, est facile, et ça va être somme sur S1, somme sur S2, de S1 et puissance moins bêta E divisé par somme sur S1, somme sur S2 et puissance moins bêta E. Et si vous faites ce calcul, il y a quatre termes dans chaque somme, vous allez trouver 0. Bon. Donc le système ne va jamais s'aimanter. Ça, c'est un calcul où on n'a fait aucune approximation. Mais maintenant, si vous essayez de faire une théorie de champ moyen, vous allez dire que l'énergie du spin 1 est dans un champ moyen dû au spin 2. Et quand vous allez faire ce calcul, vous allez trouver que la valeur moyenne du spin 1, qui est égale à la tangente de bêta J, le spin 2, donc ça, cette formule que j'écris là, elle est parfaitement exacte. Si vous faites une approximation du champ moyen en disant que le champ ressenti par le spin 1 est la moyenne du champ exercé par le spin 2, vous allez trouver tangente hyperbolique bêta J S2, et ça, quand bêta J est plus grand que 1, vous allez trouver une aimantation, S1 sera égal à S2, et les deux vont être aimantés. Donc pour un système aussi simple que ça, le champ moyen, qui était en fait la théorie connue avant la guerre, eh bien, donne une transition de phase. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose d'étonnant. La deuxième, alors, donc, pas de transition de phase, mais malgré tout, le système ressemble beaucoup au système infini. Le deuxième aspect, c'est ce qu'on voudrait faire, c'est d'extraire, à partir des effets de taille finie, extraire les comportements critiques qui vont être caractéristiques du système infini. Donc, bien que le système soit fini, on voudrait pouvoir dire de manière assez précise comment apparaissent les comportements singuliers qui sont caractéristiques du système infini. Et le troisième aspect, c'est que l'étude du système fini va faire apparaître un très grand nombre de lois de fluctuation universelle. Donc, des lois nouvelles de fluctuation universelle. Et on va en voir quelques-unes. Alors, pour illustrer un peu cette idée qu'il n'y a pas de transition dans un système fini, eh bien, je vous ai, dans les courbes qui ont été distribuées, j'ai donné en première page la susceptibilité d'un modèle d'Ising en fonction de la température pour des tailles différentes. Donc, on prend un modèle d'Ising. Je vous rappelle que on prend un réseau, par exemple, qui est carré. Et puis, sur chaque site, il y a une variable de spin qui vaut plus 1 ou moins 1, avec une énergie qui est moins J, la somme sur I voisin de J, de SI et J. Donc, les SI peuvent représenter un spin E pour vers le haut ou vers le bas, si on s'intéresse à du magnétisme, ou bien à une particule présente ou absente sur le site du réseau, si on s'intéresse à un fluide. Et il y a une quantité, quand on s'intéresse à l'aspect magnétique, en fait, qui deviendrait la densité quand on s'intéresse à un fluide, qui est simplement somme des SI. Bon, et maintenant, quand on veut mesurer une quantité, eh bien, ce que l'on a à faire, comme toujours, si je veux mesurer par exemple l'aimantation, n'importe quelle quantité, eh bien, il faut sommer sur toutes les configurations possibles. Donc il y a 2 puissance n configurations de la quantité dans la configuration C, pondéré par le poids de Boltzmann et divisé par la normalisation. Ça, c'est la base des calculs que l'on essaye de faire. Donc, si on fait ce genre de calcul, en fait, on arrive à le faire quand le nombre de spins n'est pas trop grand, parce qu'il faut énumérer toutes les configurations. Donc, typiquement, j'ai 10 spins, j'en ai 20, ça va faire à peu près 1 million. Je peux faire cette somme. Mais 20 spins, ça n'est pas beaucoup de spins, c'est un petit carré. Enfin, 25, ça serait un carré 5 par 5. Donc, ce n'est pas un carré très grand. Il y a d'autres méthodes, comme la méthode Monte Carlo, qui permet d'estimer les quantités qui nous intéressent en faisant un sondage. Alors, bon, je ne vais pas répéter la méthode Monte Carlo maintenant. Peut-être à la fin, si j'ai un peu de temps, je répéterai la façon dont ça procède. Mais toujours est-il que, par un moyen ou par un autre, soit en faisant une énumération complète de toutes les configurations, soit en faisant ce sondage Monte Carlo, qui peut être très précis, on arrive à mesurer certaines quantités. Et donc, sur les courbes qui sont sur la première page, la quantité qui a été mesurée, c'est la susceptibilité magnétique. Et la susceptibilité magnétique, ça n'est rien d'autre. Donc, c'est la susceptibilité magnétique par spin qui n'est rien d'autre que la dérivée de l'aimantation divisée par le champ magnétique. Et ce que vous voyez, c'est d'abord que les courbes en fonction de la température n'ont pas de singularité. On voit des petites irrégularités, mais qui sont d'origine statistique parce que ça provient d'un sondage Monte Carlo. Et donc, c'est des choses qui, si j'avais de meilleures statistiques, disparaîtraient. Mais on voit des courbes qui ont un maximum. Et plus la taille du système augmente, plus ce maximum devient pointu. Et la courbe se met à ressembler de plus en plus à ce qu'on aurait pour le système infini, qui serait une véritable divergence. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que, en regardant ces courbes pour différentes tailles, donc là, la plus petite, c'est la plus petite taille, ainsi de suite, on voit se développer cette singularité qui va bien dans le sens de ce qu'on observe dans la nature, c'est-à-dire dans la nature, on a des très grands systèmes, ce n'est pas 100 par 100, c'est des systèmes de 10 puissance 23 particules, et donc dans la nature, on voit quelque chose qui est tellement pointu, qui est peut-être un tout petit peu arrondi parce que le système est fini, mais on n'arrive pas à distinguer par rapport à un système infini. Alors, le message, c'est qu'à travers ces courbes, on arrive à extraire des comportements critiques, on arrive à extraire ce type de singularité. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de vous faire sentir en reproduisant des tables qui ont été publiées il y a une quinzaine d'années. Et donc, je vais simplement dire, on veut mesurer des comportements critiques. Et un des comportements critiques, par exemple, dont nous avions parlé, mais il y en a d'autres, c'est dans le diagramme pour un fluide de la densité, de la température en fonction de la densité. Pour un fluide, au-dessous d'une certaine température critique, il y a une courbe de coexistence entre le liquide à haute densité et le gaz à basse densité, dans toute cette région intermédiaire, si je suis à une densité intermédiaire, le système, il y a coexistence entre liquide et gaz, et la forme de cette courbe a un caractère universel, comme on l'avait vu il y a une ou deux séances, et on n'a que T moins TC, ici il y a rho C, que T moins TC se comporte en rho moins rho C avec un certain exposant bêta, et cet exposant bêta est à peu près égal à un tiers. Et c'est ce qu'on arrive à mesurer, mais ce que je voulais vous faire sentir, c'est qu'avec les méthodes d'effet de taille finie, donc c'est ce que vous voyez sur la page 2, il y a toute une série de données qui sont l'information, c'est FSS, c'est Finite Size Scaling, et les gens, et différents auteurs, chacune de ces lignes correspond à un article différent, et les valeurs qui ont été trouvées ont été obtenues à partir de calculs sur des systèmes finis en essayant d'extraire ces exposants. Vous voyez qu'ils arrivent à une certaine précision qui a l'air d'exclure la valeur pile un tiers, d'être des valeurs assez précises. Et elles peuvent être comparées à d'autres façons de mesurer les mêmes propriétés sur éventuellement d'autres systèmes ou par d'autres méthodes qui sont montrées sur la page 3. Par exemple, vous pouvez regarder l'exposant bêta. Et l'exposant bêta, sur la page 3, en haut, c'est obtenu par des méthodes de série haute température, dont je vais dire juste une phrase. Et la deuxième table, page 3, vous voyez que certains résultats sont des résultats expérimentaux. Donc tout ça a l'air d'être en accord parfait, mais vous voyez qu'il faut quand même une certaine agilité pour être capable d'extraire de ces courbes des valeurs de comportement critique, des exposants avec une telle précision. Et donc ça, c'est ce dont je vais essayer de parler, comment on arrive à obtenir des valeurs précises. Alors, la méthode traditionnelle, une des plus efficaces, peut-être pas la plus satisfaisante sur le plan théorique, mais la plus efficace, c'est les méthodes de série, et ce qui consiste simplement à regarder le système, par exemple, à très basse température. Donc, si on est à très basse température, tous les spins vont être ordonnés, et de faire une théorie de perturbation, regardant les configurations où un spin est retourné, deux spins est retourné, et ainsi de suite. Et donc, on arrive à avoir une série, comme la série qui est montrée en page 4, que j'ai empruntée à un des Gutmann en particulier, qui a passé beaucoup de temps à engendrer ces séries. Et donc, il a une série avec 70 termes dans une série perturbative, en fait, à l'ordre 76. Et à partir de là, il arrive à lui aussi extraire les comportements critiques. Alors, du point de vue mathématique, c'est totalement un non-sens, puisque ce qu'il a, c'est simplement un polynôme. Et un polynôme, il n'a aucun comportement critique, il n'a pas d'exposants bizarres qui ne sont pas entiers. Et malgré tout, l'idée qu'il y a derrière, c'est que quand on fait ces développements en série, les termes évoluent en fonction de l'ordre de manière suffisamment régulière pour pouvoir, en faisant quelques hypothèses, extraire un comportement critique. Toujours est-il que vous voyez, à partir de ces tables que vous avez en main, qu'on peut extraire des valeurs précises qui sont en accord soit avec ce qu'on obtient dans les expériences, soit ce qu'on obtient par d'autres méthodes. Et il y a encore d'autres méthodes qui existent dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Alors, comment on s'y prend ? Essentiellement, on est dans une situation où on a des courbes de ce genre qui dépendent de la taille, et comment on s'y prend pour extraire quelque chose. Et alors, il y a une idée de base qui est relativement simple, que je vais discuter maintenant, et cette idée, on verra comment elle apparaît dans le groupe de renormalisation. Mais pour l'instant, je vais simplement parler de cette idée de base. Et l'idée de base, donc, c'est l'idée finite size scaling, des effets de taille finie, des lois d'échelle des systèmes finis, c'est de dire on va extraire par une méthode ou par une autre une quantité physique qu'on aura mesurée, donc par exemple par Monte Carlo ou par d'autres méthodes, par énumération, qui va dépendre de la taille du système et qui va dépendre des paramètres comme la température, ou P, la percolation, ou le champ magnétique. Donc ça, a priori, c'est faisable avec un ordinateur en énumérant toutes les configurations ou en faisant un sondage précis, en faisant un sondage suffisamment long pour avoir des résultats précis. Et l'idée centrale, si vous voulez, c'est de dire que cette quantité va être de la forme, elle va ressembler à la même quantité dans le système infini, fois une fonction qui est L sur la longueur de corrélation du système infini. Et donc ça, c'est quand L est très grand, quand le système est grand, et quand la longueur de corrélation est grande. Alors, donc c'est d'écrire quelque chose comme ça. Et on va voir que ça permet d'extraire les comportements critiques. Alors déjà, en quoi on a simplifié d'une certaine manière le problème, c'est qu'à gauche, vous avez une fonction de deux variables. Donc imaginez que je veux stocker cette fonction sur un ordinateur, je vais me dire que si je connais 1000 valeurs d'une fonction, eh bien, je la connaîtrai à peu près. Et donc, comme c'est une fonction de deux variables, eh bien, normalement, il faudrait avoir 10 puissance 3 fois 10 puissance 3 mémoire pour stocker l'information qui est là. Si je regarde à droite, j'ai une fonction d'une variable, donc j'aurai besoin de 10 puissance 3 nombre pour la caractériser, et là, j'ai une autre fonction d'une variable, donc c'est 10 puissance 3 aussi. Donc d'une certaine manière, j'ai beaucoup réduit. Donc normalement, il y a beaucoup plus d'informations à gauche qu'à droite. Malgré tout, l'idée qui va émerger du groupe de renormalisation et qu'on va utiliser maintenant, c'est de penser que pour L grand, on a cette loi d'échelle. Et cette loi d'échelle, physiquement, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie qu'il y a une longueur caractéristique dans un système très grand et une longueur de corrélation, c'est-à-dire dans le cas du modèle d'Ising, c'est de dire prenons deux sites qui sont à une certaine distance R et comment la corrélation entre le spin qui est à la position, à une certaine position et un autre à une position R, comment cette corrélation décroît en fonction de la distance. Et elle va décroître, donc SI, SJ, partie connexe, va décroître en E puissance moins R sur une longueur caractéristique. Alors, si le système est beaucoup plus grand que la longueur caractéristique, vous voyez que chaque spin va avoir un environnement qui est le même que s'il était dans un milieu infini, parce que les distances sur lesquelles il ressent ces corrélations, c'est une longueur de corrélation, qui est cette longueur de corrélation. Donc, pour des systèmes beaucoup plus grands, eh bien, cette fonction elle va valoir essentiellement 1. Quand L est beaucoup plus grand que... Donc si L est beaucoup plus grand que... pardon, pas que 1, que la longueur de corrélation, eh bien... Donc ça, c'est valable quand L est... Cette formule, elle est censée être valable dans ce cas. Et donc, il y a deux cas. Il y a si L est beaucoup plus grand que la longueur de corrélation, eh bien, la fonction... elle va valoir 1. Donc f de x tend vers 1 pour x tend vers l'infini. Par contre, si la taille est beaucoup plus petite que la longueur de corrélation, il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte que la quantité physique qui m'intéresse dans le système infini peut être singulière, la longueur de corrélation peut être singulière, mais toute cette combinaison ne peut pas l'être, puisque dans le système fini, il n'y a pas de transition de phase. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de transition de phase, c'est simplement que pour un système fini, eh bien, si vous effectuez cette somme, ça va être une somme finie, et donc il n'y aura aucune dérivée de la température qui peut être singulière nulle part. Donc en fait, tant que le système est fini, ici vous avez des choses qui ressemblent essentiellement à des polynômes dans la variable et puissance moins 2j sur t ou quelque chose comme ça. Donc il y a deux situations. Si la taille est beaucoup plus grande que la longueur de corrélation, eh bien, F vaut 1, les deux systèmes se... et si la taille est beaucoup plus petite que la longueur de corrélation, eh bien, F va faire en sorte que... va faire en sorte qu'il n'y ait pas de singularité en fonction de la température. Alors, comment c'est possible? Eh bien, je prends l'exemple de la susceptibilité, mais vous pouvez prendre d'autres quantités. Donc, supposons qu'on ait une quantité qui, dans le système infini, diverge avec un exposant T moins TC. Donc, si c'était la susceptibilité, ça serait puissance moins gamma. Par exemple, je prends une température au-dessus de TC, hein, sinon vous mettez des valeurs absolues. Et puis, une longueur de corrélation, on avait vu que la longueur de corrélation est un exposant qui s'appelle nu. Donc, c'est T moins TC, puissance moins nu. Et donc, ce qui est écrit au-dessus, là, quand T est proche de TC, ça va me dire, bon, mettons qu'il y a une amplitude A ici, que Q infini de T va se comporter en T moins TC puissance moins gamma fois la fonction en question de L fois T moins TC puissance nu. Et d'une certaine manière, si la taille est petite devant la longueur de corrélation, c'est-à-dire si l'argument de cette fonction est suffisamment petit, eh bien, il faudrait que toute cette histoire, il n'y ait pas de singularité à T égale TC, puisque le système est fini, il ne peut pas être singulier. Et donc, la seule possibilité, c'est que le f de x, qui est là, eh bien, il se comporte en x puissance quelque chose, je crois que ça doit être gamma sur nu, quand x tend vers 0. Il faut que cette fonction se comporte de cette manière, de façon à ce que la divergence qui est là soit compensée par, la fonction qui est là. Donc ça, c'est une façon de l'écrire. C'est une façon d'écrire les effets de taille finie. Encore une fois, hein, c'est une fonction d'échelle, donc ça n'est vrai que si le système est assez grand et si la longueur de corrélation est assez grande. Et il y a une autre façon de l'écrire, qui est peut-être plus pratique, mais qui est totalement équivalente, c'est de dire que QL de T se comporte en L puissance gamma sur nu, une certaine fonction, j'appelle F tilde, si vous voulez, de L puissance 1 sur nu fois T moins TC. Donc, c'est exactement la même chose, c'est juste changer le nom des variables, au lieu de prendre la variable x ici, c'est de prendre la variable x puissance gamma sur nu, ou quelque chose comme ça. Et donc, les deux, c'est juste une réécriture. C'est pas la même fonction, mais si on connaît la fonction qui est à droite, on trouve facilement la fonction qui est à gauche. Et sous cette forme, bah, c'est plus agréable, parce qu'on se dit, il n'y a pas de transition, donc ça va être une fonction qui se développe en T moins TC autour de quand l'argument vaut 0. Donc, on s'attend à ce que les dérivées, par exemple, successives des K de QL de T sur DTK vont se comporter en L puissance gamma sur nu plus K sur nu. Donc ça, c'est deux façons d'écrire les effets de taille finie. Et a priori, eh bien, je peux prendre les données que j'ai mesurées par une méthode de Monte Carlo ou par une autre méthode et essayer d'en extraire les comportements critiques simplement en essayant de superposer ces courbes. C'est-à-dire, je peux... essayer de tracer... Si je trace L puissance moins gamma sur nu fois la quantité que j'ai mesurée en fonction de L puissance 1 sur nu T moins TC, eh bien, normalement, les courbes différentes comme celles qu'il y a sur la page 1 vont toutes se superposer et donc je vais obtenir une espèce de courbe unique. Si le système est assez grand, il va falloir avoir des systèmes suffisamment grands, je vais avoir une courbe unique. Et donc le jeu consiste à se dire, je vais essayer de trouver TC, nu, gamma sur nu, ces trois quantités. Je vais essayer de déterminer ces trois quantités, ces trois comportements critiques, la température critique et ces deux exposants, simplement en jouant sur des valeurs possibles sur mon ordinateur et essayer de voir si j'arrive à superposer les courbes. Et comme vous le savez, dès qu'on a plusieurs paramètres à déterminer à la fois, il y a toujours un certain jeu possible sur je change un peu nu, alors si je peux rattraper ça en changeant TC, je peux rattraper ça en changeant gamma sur nu. Et donc il y a toujours une difficulté de déterminer des paramètres, plusieurs paramètres à la fois à partir de certaines données. Donc en général, c'est assez difficile d'extraire les exposants, mais il y a un certain nombre de cas qui sont favorables. Alors peut-être juste avant de poursuivre en parlant de ces cas favorables, eh bien, ici on a une certaine fonction d'effet de taille finie, donc une quantité, ça c'est ce comportement en fonction de la taille quand on est pile à TC, et ça c'est la façon dont ça se comporte quand on s'écarte un peu de TC. Mais ces fonctions, en général, elles vont dépendre de la géométrie, elles vont dépendre du système que je regarde. Donc la fonction qui est là va dépendre, si je prends un domaine carré, si je prends un domaine biscornu, si je prends un rectangle, eh bien chaque fois, ces fonctions vont dépendre de la géométrie que je considère. Donc les gens, par exemple, vont prendre des carrés avec des conditions périodiques ou des rectangles avec des bords libres. Et donc ces fonctions vont dépendre de ces conditions au bord. Et les théories conformes, en particulier, permettent, dans les cas bidimensionnels, au moins dans certains cas, de calculer ces fonctions, ou l'équivalent de ces fonctions, pour des systèmes bidimensionnels critiques. Bon. Alors, comme je le disais, c'est assez embêtant, du point de vue numérique, d'essayer de déterminer plusieurs quantité à la fois, parce que vous allez voir vos courbes, essayer de les superposer, puis vous allez voir qu'en changeant certains paramètres, vous arrivez aussi bien à les superposer, donc vous allez rester dans une certaine incertitude. Alors, il y a un certain nombre de cas favorables qui vont correspondre au cas où une de ces quantités, par exemple gamma sur nu, vaut zéro. Et donc, on va voir ces cas favorables, et ces cas favorables vont permettre de faire des prédictions très précises. Et donc, le premier cas favorable qu'on peut considérer, c'est donc, si gamma sur nu égale 0, ou bien si gamma sur nu est une valeur que je connais à l'avance, alors bon, bah, je peux aller beaucoup plus loin, ça va être beaucoup plus facile. Donc, le cas où gamma sur nu égale 0, eh bien on l'a déjà rencontré, c'est quand on a regardé la première séance, le problème de percolation sur un réseau à deux dimensions, on pourrait le faire à toutes dimensions. Donc on avait vu que si on considère un problème de percolation, et donc vous rappelez sans doute que la percolation sur chaque site d'un réseau, on tire au hasard pour savoir si ce site est occupé avec probabilité P et vide avec probabilité R-P. Et quand on dessine la probabilité PAB de P en fonction de P, la probabilité qu'il y ait au moins un chemin de site connecté qui aille de A à B, d'abord, c'est un polynôme, comme on l'avait dit, donc il ne peut pas y avoir de transition. On a une courbe de ce genre. Et quand on augmente la taille du système, cette courbe devient de plus en plus pentue, abrupte. Et puis, on s'attend à ce que si le système était infini, eh bien, la courbe devienne discontinue comme ça. Et donc ça, c'est un cas où il n'y a rien qui diverge dans cette quantité quand on est à TC. En fait, ça devient une fonction qui devient en fait discontinue dans la limite dans la limite d'une taille infinie. Et comme vous voyez, ces courbes que j'ai fait reproduire, eh bien, comme vous le voyez, ces courbes se coupent toutes en un certain point, ici. Et si on essaye de voir si c'est compatible avec une forme de taille finie, donc en fait, ici, il n'y a pas de gamma sur nu, eh bien, on y arrive très bien. Ça, c'est une courbe qui suit la courbe où elles sont différentes. En fait, c'est sur la page 6 de ce que vous voyez. Donc, c'est exactement page 5 et page 6, c'est exactement les mêmes données. La seule chose qui a été faite, c'est d'essayer d'introduire cette dépendance. Donc, c'est de tracer ce PAB, non pas en fonction de P, mais en fonction de L puissance 1 sur nu fois P moins PC. Et vous voyez que toutes ces courbes se superposent tout à fait en accord avec cette loi de système fini. Alors, bon, je vous ai donné pour vous montrer que ce n'est quand même pas un travail infini, un petit programme, moi j'écris toujours en Fortran, qui permet d'avoir ces courbes et qui fait en quelques minutes d'ordinateur, vous pouvez fabriquer ces courbes facilement. Alors, en fait, cette façon de faire permet de déterminer le point critique en regardant où les courbes se coupent. Donc j'ai ces courbes pour différentes tailles, elles se coupent à un certain endroit. Ça me permet de déterminer le point critique. Et une fois que j'ai déterminé le point critique, je regarde comment la dérivée dépend de la taille. Hein, quand gamma sur nu égale 0, eh bien, le QL, pour trouver le point critique, je vais essayer de trouver le point tel que QL égale QL' de TC, donc l'endroit où les courbes se coupent. Et puis, pour calculer l'exposant nu, eh bien, je vais regarder la dérivée dQL sur dT à TC égale quelque chose qui va augmenter en L puissance 1 sur nu. Donc, en comparant deux tailles, je vais pouvoir avoir une estimation de l'exposant 1 sur nu, et donc je vais pouvoir trouver l'exposant 1 sur nu. Et si, une fois que j'aurai fait ça avec une quantité qui a gamma sur nu égale 0, une fois que j'ai déterminé le point critique et nu, à ce moment-là, je peux regarder d'autres quantités qui n'ont pas gamma sur nu égale 0, et ça va me permettre d'extraire d'autres comportements critiques. Donc c'est vraiment comme ça que les gens procèdent. Et cette façon de procéder, elle a été en fait initiée par Binder dans les années 80, et avec ce qu'on appelle les Binder Ratios, c'est-à-dire les rapports de Binder, qui est un outil qui est beaucoup utilisé dans toutes ces façons d'essayer de déterminer les comportements critiques. Et donc Binder a pris un des modèles les plus simples, qui est le modèle d'Ising. En fonction, donc c'est un modèle d'Ising en champ nul, en fonction de la température. Il a mesuré l'aimantation moyenne, l'aimantation carré moyenne, etc., l'aimantation 4 moyenne. Donc ça veut dire qu'il fait sa simulation. L'aimantation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la somme des spins de I égale 1 à n. Donc à chaque instant, il produit des. Binder, c'est un des grands maîtres de la méthode Monte Carlo. Donc, il a cet algorithme de Metropolis qui lui permet d'engendrer un très grand nombre de configurations typiques du modèle d'Ising à une certaine température. Et puis, il mesure les moments de l'aimantation. Pour chaque configuration, il mesure son aimantation. Et puis, moyenne le carré, etc. Bon, comme je suis sûr que son programme est très, très bien fait, eh bien, il va trouver que l'aimantation en champ nul d'un système fini est nul. Il trouve M2, il trouve M3, il trouve M4, et il va dessiner le rapport M4 sur M2 au carré. En fait, souvent, il mesure cette quantité-là, M4, en fonction de la température, et il trouve des courbes. Encore une fois, toutes les quantités que je peux mesurer sur un système fini sont des courbes lisses, qui n'ont pas de singularité. Donc, il trouve des courbes qui ont une forme comme celle que vous voyez ils trouvent des courbes en fonction de la taille qui font quelque chose comme ça. À haute température, ça vaut 0. À basse température, ça vaut moins 2. Bon, alors ça, c'est très facile à comprendre. Pourquoi ce rapport va passer de 0 à moins 2, un peu comme dans le cas de la percolation, passer de 0 à 1 dans le cas de la percolation, eh bien, soit on ne percole pas et la probabilité donc est 0, soit on percole et la probabilité d'aller d'un bord à l'autre est 1. Alors là, on a ces valeurs M4 sur M2 carré qui vaut 3 quand on est à haute température, et le 3, c'est le 3 de la gaussienne, simplement, c'est-à-dire le quatrième cumulant d'une gaussienne sur le... enfin, le quatrième moment de la gaussienne sur le deuxième moment au carré, ça vaut 3. Et ça, c'est simplement parce que j'ai un très grand système, on est à haute température, la longueur de corrélation est petite. Eh bien, ce qui se passe, c'est que l'aimantation totale, c'est simplement une somme de variables aléatoires indépendantes. Chaque petit bloc a son aimantation, j'ajoute ça, et donc j'aboutis à une loi gaussienne. Le moins 2 ici, aussi facile à comprendre, quand on est dans la phase basse température, essentiellement, le système est aimanté. Donc les valeurs possibles de l'aimantation, c'est n fois petit m, l'aimantation spontanée, ou moins n fois petit m. Le système est fini, mais quand même, il commence à ressembler au système infini. Donc il passe la moitié de sa vie à avoir l'aimantation positive du système infini, l'autre moitié, l'aimantation négative, et il saute de l'un à l'autre. Et donc, une quantité qui prend deux valeurs avec probabilité égale, elle va avoir que M4 sur M2 au carré va valoir 1, parce que essentiellement tout se passe comme s'il y avait juste une variable binaire. Et donc, quand on retranche moins 3, ça fait moins 2. Voilà. Donc ça, c'est les deux valeurs asymptotiques, et on passe de l'un à l'autre. Et l'idée de Binder, c'est de tracer ces courbes en fonction de la taille et de regarder l'endroit où ces courbes se coupent. Et ça, ça lui détermine la température critique. Et cette méthode, qui a été initiée, comme je disais, donc par Binder, elle a été réutilisée dans beaucoup de contextes, dans les verres de spin, dans beaucoup de problèmes, dans les problèmes de localisation et autres, d'essayer de déterminer numériquement le point critique en regardant ces courbes pour des différentes tailles et regarder où elles se coupent. L'endroit précis où elles se coupent, je vais revenir sur l'endroit précis où elles se coupent, qui est quelque chose qui est intéressant. En fait, ce rapport de Binder, il dépend de la géométrie, il dépend des conditions au bord. Et donc, comme je disais, ce rapport de Binder, c'est une des caractéristiques des fluctuations de la distribution de M. En fait, au lieu de regarder ce rapport M4 sur M2 carré, on pourrait regarder d'autres moments, des moments plus compliqués, et en fait, on pourrait se poser la question, quelle est la distribution complète de cette aimantation. Alors, cette distribution, dont ce point d'intersection est une des caractéristiques, mais en fait, il y a toute la distribution de l'aimantation. P de M, il dépend de la géométrie et il dépend des conditions au bord. Et ce P de M, en soi, c'est aussi une fonction d'échelle. C'est-à-dire qu'a priori, le P de M, il dépend de la taille et de M, mais en fait, quand L est grand, ça va être quelque chose qui va dépendre de devenir une certaine fonction de M sur, alors il se trouve que dans le cas présent, c'est gamma sur 2 nu, c'est-à-dire ça devient une fonction d'échelle qui est universelle, mais cette fonction, elle est universelle, mais malgré tout, elle dépend de la géométrie et elle dépend des conditions au bord. Et donc, ces fonctions, elles avaient été déterminées, par exemple, par Binder, encore une fois, et ça, c'est ce que vous voyez sur la page 9, il avait déterminé cette fonction d'échelle. Alors, probablement qu'ici, il doit falloir mettre un E sur L puissance gamma sur 2 nu. Ça illustre ce que je disais à propos des conditions au bord. Il y a les deux courbes qui sont obtenues sur la page 9. L'une, c'est si on prend un carré avec des conditions au bord périodiques, c'est-à-dire que les spins qui sont sur la ligne du haut interagissent avec ceux qui sont sur la ligne du bas, pareil sur la gauche-droite, et la courbe de droite, elle est avec des bords libres, c'est-à-dire qu'on n'impose rien sur les conditions au bord. Donc en fait, tout ça, c'est pour vous dire que à partir des courbes obtenues pour des systèmes finis, eh bien, on peut extraire des exposants critiques. Et à mon sens, une des méthodes les plus efficaces consiste à utiliser cette méthode des rapports de Binder, c'est-à-dire à trouver une quantité où il n'y a pas un L puissance quelque chose devant. Donc une quantité où gamma sur nu vaudrait zéro. Et à ce moment-là, on regarde où ça se coupe, ça détermine la température critique, et ensuite on mesure l'exposant à partir de la pente qui est là. Alors, un autre cas favorable, dont je vais parler un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle la renormalisation. Je regarde si j'ai pas... Ah oui, bon, peut-être avant de passer à ça, juste... En fait, c'est une espèce de question ouverte, enfin, ou intéressante, d'essayer vraiment de déterminer ces fonctions. Alors, il y a un cas où cette fonction d'échelle est facile, c'est dans le cas du champ moyen. Et dans le cas du champ moyen, on peut, par exemple, trouver... La valeur, on peut prédire la valeur où ces courbes vont se couper. Et cette valeur, je vais vous la montrer, elle fait un petit peu peur, mais vous allez voir qu'elle n'est pas très compliquée. M4 sur M2 au carré, ça vaut 4 gamma de 5 quarts au carré sur gamma de 3 quarts au carré. Donc ça, c'est un champ moyen qui est une valeur qui vaut à peu près 2,18. Alors, d'où elle sort? En fait, elle sort de quelque chose qui est assez simple, c'est que quand on fait la théorie de champ moyen, eh bien, la distribution de l'aimantation, quand on est pile au point critique, quand on est à la transition, c'est juste une distribution qui est exponentielle moins M4. Donc, c'est si on a une densité qui est puissance moins M4, et qu'on mesure le rapport de ces aimantations, on trouve... ce nombre. Et ce nombre, en fait, il permet essentiellement de comprendre la courbe de Binder que j'ai montrée, qui est montrée, là, cette courbe où ça s'intersecte, qui est page 8. Et si vous mettez 2,1 et que vous retranchez 3, vous trouvez quelque chose qui tourne autour de moins 1. Et cette courbe, elle a été obtenue en dimension 5, c'est-à-dire sur un réseau qui est en dimension 5, où on s'attend à ce que le champ moyen soit la bonne théorie. Alors pourquoi on n'a pas montré la courbe en dimension 2 ou en dimension 3? Eh bien, on peut le faire. En fait, moi, j'avais essayé de le faire, mais il y a longtemps, pour un cours. Mais en fait, en dimension 2, en deux dimensions, le rapport attendu, en utilisant les théories conformes, il vaut à peu près 1,16. Et donc, en fait, quand vous retranchez 3, il va se retrouver tellement près du bord ici que, en fait, de le voir, c'est difficile de voir l'intersection, mais elle se trouve très proche de l'axe horizontal ici. Mais ça fonctionne de la même façon si on a envie de le faire. La distribution de M, le point d'intersection qui en est une des caractéristiques, dépend de la géométrie. Si on prend un carré, un rectangle, une forme plus ou moins compliquée, chaque fois on va avoir une nouvelle distribution universelle qui va apparaître, qui ne va pas dépendre des détails du modèle que l'on regarde. L'autre cas favorable, sur lequel on avait travaillé il y a pas mal d'années, qui a été introduit par Nightingale, ça s'appelle la renormalisation phénoménologique. Donc je vous rappelle que pour extraire les exposants, eh bien, on mesure une certaine quantité qui dépend de la température et on voudrait l'extraire en essayant de voir quel est le choix des exposants qui permet de superposer ces résultats selon cette loi d'échelle que j'écris ici. Donc le cas dont on a discuté jusqu'à présent, c'est le cas où gamma sur nu vaut 0.